Élian Cuvillier, vous êtes professeur d'exégèse du Nouveau Testament à Montpellier et vos champs de recherche en ce moment sont plutôt Saint Matthieu. Mais vous avez fait aussi l'Apocalypse. Est-ce qu'on choisit ces champs de recherche ou est-ce qu'on les reçoit ?
Ah, écoutez, je crois que la deuxième réponse est la bonne. Effectivement, je dirais assez que mon travail d'exégète, c'est quand même la réponse à un appel. C'est de l'ordre de la vocation, en ce sens qu'on m'a dit un jour, mais tu devrais faire un doctorat en Nouveau Testament, et puis tu devrais écrire un commentaire de l'évangile de Matthieu, tu devrais. Et donc, d'une certaine manière, de façon assez simple, je me mets au travail. Et puis, je découvre la richesse de ces textes de cette façon-là. Ce n'est pas quelque chose qui est prévu à l'avance pour moi. C'est vraiment une réponse à une demande.
Et alors, comment est-ce qu'on devient professeur d'exégèse ? Comment la Bible vous prend aussi ? Elle vous saisit ?
Alors, je dirais qu'effectivement, la tradition dans laquelle j'ai été élevé, tradition protestante, a évidemment mis toujours la Bible au centre, d'une façon qui n'était d'ailleurs pas toujours, je dirais, très positive. Je sors d'un milieu où l'approche de la Bible était assez fondamentaliste. Mais j'en ai gardé cette idée fondamentale que dans ce livre-là, il y a une parole à entendre. Et au fond, quand j'ai fait mes études de théologie, c'est presque naturellement que je me suis dirigé vers la spécialisation en biblique. Jamais j'aurais imaginé devenir exégète du Nouveau Testament, mais c'est justement suite à « tu devrais » et j'ai fini par faire ce qu'on me conseillait de faire. Et j'ai toujours découvert dans ce texte, au fond, de façon très surprenante, à un moment donné, dans mon travail d'exégète scientifique et parfois peu enthousiasmant quand on ouvre des dictionnaires comme ça, il y a toujours un moment où une parole surgit et éclaire d'un jour particulier tel ou tel aspect de l'existence, tel ou tel aspect de la réalité qui nous entoure. Ça, c'est pour moi, la richesse et qui fait que le désir continue.
Est-ce qu'on peut vous demander quelle est cette parole qui un jour a été comme un feu qui a brûlé ?
Ah, je crois que pour moi, c'est vraiment, quand je disais tout à l'heure l'appel, je dirais c'est presque l'appel en tant que appel tout court, c'est-à-dire le fait de se sentir nommé, recueilli, reconnu, comme ce sujet unique, au fond. Alors après, l'appel peut prendre diverses formes précises, c'est-à-dire devenir ceci ou devenir cela. Mais ce qui compte, au fond, au départ, c'est le fait de se savoir aimé et reconnu tel qu'on est. Je crois que c'est ça que j'entends chaque fois.
Et c'est ça aussi que vous entendez dans l'évangile de Matthieu ?
J'allais dire d'une certaine manière, on pourrait dire que le risque c'est de dire je l'entends partout dans le Nouveau Testament, mais c'est vrai que je l'entends partout dans le Nouveau Testament avec des éclairages effectivement très différents entre Matthieu et Marc que j'ai travaillé, ou l'Apocalypse, ou l'Épître de Jacques que j'ai aussi travaillé. C'est évidemment des appels très différents, mais c'est au fond de se demander comment de façon si différente la même parole surgit dans des situations et des quotidiens très différents.
Quand vous parlez d'appels différents, vous pourriez nous dire la différence entre Matthieu et Marc ? Quelle est la couleur qui change ?
Je dirais que dans l'évangile de Marc, c'est de l'ordre d'un appel implicite. C'est-à-dire qu'au fond, l'évangile de Marc en dit peu et ouvre des portes qui sont parfois saisissantes, des portes qui sont parfois déstabilisantes, comme cette finale courte de l'évangile de Marc, où ça semble se terminer sur la peur et le silence, mais qui ouvre la place au lecteur. Et dans l'évangile de Matthieu, c'est en apparence un discours qui est plus explicite, mais qui, dans son explicitation, laisse aussi une place au lecteur. Quand on écoute le sermon sur la montagne, par exemple, au fond, on découvre que quelque part, on ne nous dit pas ce qu'il faut faire. On nous dit une parole qui fait ce qu'elle dit pour celui qui la reçoit et qu'il se laisse traverser par elle, au fond. Je veux dire, les béatitudes qui ouvrent le sermon sur la montagne, c'est pas « tu dois être heureux », c'est au fond, si tu entends cette parole et que tu la reçois et qu'elle te traverse, il y a quelque chose comme un bonheur extérieur à toi qui vient éclairer de notre jour ton existence. Voilà comment je dirais les choses.
Aujourd'hui, quand vous travaillez, comment est-ce que cette exégèse que vous avez vous-même dit austère, comment est-ce qu'on l'aborde ?
Alors je dirais, moi je l'aborde à chaque fois comme l'entrée dans un continent que j'ignore. Alors c'est très difficile parce que ces textes, je les ai relus des dizaines et des dizaines et des dizaines de fois. En même temps, ce que je dis toujours à mes étudiants en théologie, et c'est d'où l'importance non pas d'être un grand hellénisant, mais de savoir un minimum de grec, c'est faire l'effort de regarder le texte original, même si on a à côté la traduction française, peu importe, c'est déjà faire l'effort d'entrer dans un terrain inconnu, de se l'approprier et de découvrir toujours quelque chose qu'on n'avait pas vu. Et comme je dis toujours, dans l'évangile, l'essentiel est dans le détail. Dans le détail qui ne paraît pas important et qui pourtant va déclencher quelque chose qui est de dire « tiens, je n'avais pas vu ça ». Et alors après, on ouvre un dictionnaire, on ouvre une concordance et on voit de façon assez étonnée, comme un enfant émerveillé parfois, ah mais oui, c'est là aussi, c'est là aussi. Enfin, il y a quelque chose qui pour moi est vraiment de l'ordre de la découverte à chaque fois.
Parmi les découvertes, justement, entre autres, on peut être étonné des détails de lieux.
Oui, par exemple, effectivement, des détails de lieux, pourquoi Jésus va... Par exemple, je pense à l'évangile de Marc, quand Jésus va guérir le possédé de Gadara, on découvre un petit peu plus loin qu'il va retourner à Gadara, et que là, il va guérir un malade qui parlait avec difficulté. Mais on a l'impression, au fond, quelque part, c'est comme si le possédé de Gadara, qui est resté sur place, narrativement, on nous disait qu'il avait « raconte les merveilles que Jésus a fait pour toi ». Et c'est comme si, au fond, il y avait un terrain qui avait été préparé pour quand Jésus y retourne. C'est lié à un lieu, c'est peut-être une surinterprétation. C'est des effets de texte comme ça qui sont tout à fait intéressants, je trouve.
Quand vous dites que vous avez lu, relu, qu'il y a des textes que vous connaissez par cœur, comment la parole de Dieu est malgré tout et surtout nouvelle ? Avec cette répétition, ces textes que vous connaissez par cœur.
Et bien justement parce que je crois les connaître par cœur. Je ne sais pas si vous avez fait cet exercice, parfois on est dans un groupe biblique et on prend un texte très connu, on dit aux gens, une dizaine de gens, écoutez, on va reconstituer le texte. Et vous pouvez être sûr qu'on ne reconstitue pas le texte. C'est-à-dire qu'il y a effectivement une reconstruction d'un texte tel qu'on s'en souvient. Et quand on le compare au texte, on voit qu'il y a des écarts. Et c'est dans ces écarts, évidemment, dans cette différence-là, que surgit la parole. Donc en fait, je crois connaître les textes, mais je ne les connais pas.
On peut dire que les textes vous connaissent.
Oui, d'une certaine manière, oui, c'est assez vrai. Les textes nous connaissent et effectivement, ils convoquent le lecteur que je suis, ils le prévoient, ils le construisent. Et est-ce qu'il va réussir à se laisser rencontrer par le texte ? C'est toute la question du lecteur. Hein ? Est-ce que c'est le lecteur qui construit le sens ? Est-ce que c'est le texte qui prévoit son lecteur ? Je crois vraiment qu'on peut parler d'une rencontre entre les deux.
Où est l'Esprit Saint dans cette rencontre ?
Alors, je suis protestant, le réformateur Jean Calvin disait que pour que les Écritures deviennent paroles, il faut le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Et alors c'est très étonnant parce que j'ai envie de dire que ce témoignage intérieur, c'est vraiment l'altérité. C'est-à-dire c'est quelque chose d'extérieur à moi qui vient parler à mon fort intérieur pour me convaincre que dans ce texte-là est une parole qui fait vivre. Voilà comment je dirais. Le témoignage intérieur du Saint-Esprit, c'est l'altérité. C'est paradoxal, mais je crois qu'il se joue quelque chose là.
Parmi vos champs de recherche, vous avez écrit aussi un livre sur Jean de Patmos.
Alors, j'ai écrit un ouvrage sur l'Apocalypse de Jean, mais tout récemment, j'ai écrit un ouvrage qui s'appelle « De Jésus à Jean de Patmos, l'annonce de la bonne nouvelle dans le Nouveau Testament ». Je l'ai coécrit avec une collègue, Emmanuel Steffek, et c'est une réflexion sur la mission, enfin l'annonce de la bonne nouvelle dans les évangiles, chez Paul et jusqu'à l'Apocalypse de Jean. Comment on conçoit l'annonce de la bonne nouvelle ?
Alors comment est-ce qu'on la conçoit ?
Alors d'abord j'ai découvert une pluralité d'annonces, mais en tout cas s'il y a quelque chose qui est assez commun à ces différents auteurs, c'est qu'on n'annonce pas la bonne nouvelle comme un savoir objectif, on l'annonce à partir de l'expérience qu'on est soi-même évangélisé par le texte. Et au fond, c'est très exactement ça. Le Christ lui-même, il vient dans ce monde et il se vide. Et c'est dans cet évidement, dans cette kénose, que surgit la parole. Et au fond, annoncer la bonne nouvelle, c'est pas apporter aux autres ce qu'ils n'ont pas, c'est en quelque sorte se laisser rencontrer par les autres. C'est leur donner la possibilité de nous rencontrer. Et en nous rencontrant, peut-être d'entendre cette parole.
Ça a quelque chose de savoureux de vous entendre parler ainsi de la parole de Dieu. Nous sommes en carême, avec justement un retour à la parole de Dieu. Qu'est-ce que vous aimeriez que nos auditeurs connaissent, goûtent, rencontrent, et comment ils peuvent de nouveau se laisser rencontrer par la parole de Dieu ?
Alors effectivement, ça c'est tout mon défi au fond. Hein. C'est de dire aux gens, et je le dis surtout aux protestants qui croient, connaître la Bible. C'est au fond, quand vous allez devant ce texte-là, allez-y en essayant de vous laisser vider de tout ce que vous croyez savoir. Alors, on y va parce qu'on croit savoir quelque chose, sinon on n'irait pas. Mais en même temps, la lecture, c'est essayer de se débarrasser de tout ce qu'on croyait savoir et de repartir comme un lecteur qui apprendrait à lire, qui annonnerait presque le texte pour n'en oublier aucun des détails. Et vraiment, l'essentiel est dans les détails. Pourquoi il y a ici « et pourquoi il y a ici « mais » et pourquoi il y a ici « car » et ne pas aller directement sur les gros mots « foi »,« Dieu », »,« amour ». Bien sûr qu'ils sont importants, mais quel est le lien qui est fait entre ces mots-là, dans le texte-là ? Et si on ne connaît pas le grec, ce n'est pas grave. Alors qu'on lise deux ou trois traductions différentes Et on verra effectivement comment peuvent se jouer différemment les harmoniques du texte.
Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose ?
Je suis très heureux d'avoir été invité, de pouvoir dire cette passion que j'ai de la parole.